Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons ce soir Bruno Leroux, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
À mes côtés pour vous interroger, Lilian Alemania de Libération. Bonsoir Lilian.
Bonsoir.
Et Roselyne Fèvre de France 24.
Bonsoir, bonsoir Valérie.
Bonsoir Roselyne. Alors Bruno Leroux, la France a été marquée il y a 10 jours par de terribles attentats. Depuis, François Hollande l'a dit plusieurs fois, la France est en guerre. Alors la riposte du président de la République a été à la fois de proclamer l'état d'urgence en France pour assurer la sécurité intérieure, mais aussi de renforcer le dispositif militaire pour augmenter les bombardements sur les positions de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak, avec notamment la décision d'envoyer sur zone le porte-avions Charles de Gaulle. Et puis le chef de l'État l'a aussi dit plusieurs fois depuis le 13 novembre, la France veut éradiquer l'État islamique et pour y parvenir, elle compte sur une coalition internationale. Et c'est pour essayer de la mettre en place qu'il est actuellement à Washington auprès de Barack Obama. Hier, il a vu Cameron, l'anglais, il va voir Vladimir Poutine jeudi. Est-ce que cette tournée, là on a les premières déclarations de Barack Obama qui tombe, la conférence de presse conjointe des deux présidents, qu'est-ce qui peut sortir concrètement de ces rencontres?
D'abord, vous avez rappelé la cohérence de l'action aujourd'hui de la France. La cohérence, c'est bien entendu de protéger les Français sur notre territoire et d'avoir des mesures qui correspondent au caractère exceptionnel de la guerre qui nous est livrée, à la forme particulière qui est celle de ces terroristes. Une action militaire qui a été renforcée par des moyens français mobilisés en plus, et je pense notamment au Charles de Gaulle qui est arrivé et qui a commencé aujourd'hui, hier, à frapper, aux moyens d'échange de renseignements avec nos alliés. Et puis il y a l'action diplomatique qui doit viser à rassembler tous ceux qui sont touchés par le terrorisme. Et quand je dis tous ceux qui sont touchés par le terrorisme, c'est toutes les démocraties, c'est tous les défenseurs de la liberté. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut se mettre à l'abri du terrorisme. J'ai lu la semaine dernière, avant le début du groupe, j'avais reçu des témoignages de beaucoup des présidents de groupes européens qui m'ont envoyé des témoignages de solidarité. J'en ai lu un, celui de Thomas Oppermann, le président du groupe SPD au Bundestag. Et Thomas, bien entendu, était totalement solidaire de ce qui s'était passé, mais il disait « l'Allemagne est touchée ». Et l'Allemagne est touchée pour la raison simple, c'est qu'elle défend les mêmes valeurs que la France. Elle a les mêmes valeurs, elle défend la liberté, et donc demain elle peut être attaquée exactement de la même façon. Et donc c'est tout cela, la tournée aujourd'hui du président de la République, c'est hier en Europe, vous avez rappelé Donald Tusk, David Cameron, aujourd'hui Barack Obama, demain Angela Merkel, Matteo Renzi, Vladimir Poutine, Justin Trudeau, Xi Jinping le week-end prochain. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la coalition soit mondiale contre un mouvement qui veut détruire la liberté.
Mais est-ce qu'une coalition avec les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie, ça veut dire quelque chose concrètement sur le terrain? Déjà, on commence à évoluer sur le discours. Manuel Valls a parlé tout à l'heure de coordination plus que de coalition.
Oui, mais la question est de savoir si nos objectifs sont partagés. C'est ce qu'il faut vérifier. Aujourd'hui.
Alors justement, il y a un des objectifs qui n'est pas partagé, c'est celui du sort de Bachar el-Assad qui pose problème entre les différents alliés. Les Américains veulent qu'il parte à tout prix, les Russes le protègent.
Non mais la question là-dedans est là encore. Là encore, il faut dire des choses simples et en même temps avoir des objectifs précis. La chose simple que dit la France, que disent aujourd'hui la plupart des démocraties et la plupart même des États qui sont limitrophes aujourd'hui de la Syrie, c'est qu'il n'est pas possible d'envisager l'avenir avec M. al-Assad. Que sa présence à la tête de la Syrie bloque même un certain nombre de coalitions régionales qui pourraient se faire pour lutter plus efficacement contre Daesh. C'est un fait. Mais la priorité n'est pas celle-là aujourd'hui. Et nous ne nous renions en rien en disant que l'avenir de la Syrie n'est pas Monsieur Bachar el-Assad, mais que la priorité, c'est Daesh et la lutte contre Daesh. D'ailleurs, nous-mêmes, regardons la France. Y a-t-il eu un changement de stratégie? Y a-t-il un moment où notre priorité a été, dans les moyens que nous mobilisions, le départ de Monsieur al-Assad? Aucunement. Aucune des frappes françaises n'a été dirigée contre Monsieur al-Assad. Elles ont toutes été dirigées contre Daesh. La question se pose, par exemple, de façon différente à la Russie. On dit que nous aurions changé de stratégie, la Russie, non. La Russie continue à frapper aujourd'hui beaucoup plus l'armée syrienne libre que Daesh.
C'est un problème d'avoir un allié avec
Mais bien entendu,
pas les mêmes
et donc la question que nous voulons poser à chacun de nos partenaires dans cette coordination ou cette coalition, c'est votre objectif principal est-il bien d'éradiquer Daesh ?
Je voudrais peut-être reprendre sur le changement de stratégie. Oui. Là, vous avez à la fois tort et peut-être raison, si vous me permettez. C'est que dans un certain sens, eh bien, pour François Hollande, eh bien, la priorité, c'est devenu de taper Daesh. Ce n'était pas la priorité avant le 13 novembre. On est bien d'accord. Il y avait un préalable, c'était la ligne de Laurent Fabius au quai, qui était, dans le fond, taper Daesh, c'est conforter Bachar.
Non.
La France avait adopté cette ligne.
Nous tapions.
Ou alors, on n'a pas compris.
Nous frappions Daesh en Irak.
Oui.
Et donc, nous ne nous sommes jamais trompés. Nos frappes ont toutes été dirigées contre Daesh. Demandent quelquefois à être précises. Quand nous avons pensé que des camps d'entraînement en Syrie, aujourd'hui, par les informations que nous avions, recelaient potentiellement ceux qui préparaient les attentats dans notre pays, ceux qui voulaient nous mettre en danger, nous avons aussi été faire d'abord des vols de reconnaissance, ensuite des vols de frappe en Syrie. Parce que notre objectif premier a toujours été Daesh. Et nous avons un objectif politique, mais qui est un objectif politique de stabilité dans la région, que nous ne mettons pas au même niveau, mais sur lequel nous ne rabaissons pas du moindre ton, qui est que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. Les choses sont claires.
Pardonnez-moi, j'ai une autre question. J'imagine que vous n'avez pas oublié la petite brouille diplomatique qu'il y avait eu entre François Hollande et Barack Obama. C'était le fameux 30 août 2013 où la France était prête à bombarder Bachar el-Assad lorsqu'il avait franchi la fameuse ligne rouge sur les massacres d'utilisation chimique. Donc clairement, moi j'aimerais comprendre aujourd'hui ce que François Hollande attend réellement et concrètement de Barack Obama. Est-ce que c'est une intensification ? Est-ce que c'est un appui plus net aux rebelles ? Est-ce que c'est traquer tous les trafics financiers, notamment sur le pétrole, etc. Il vient avec quelle demande exacte, François Hollande ?
Le président de la République, d'abord, il aura l'occasion d'exposer cette semaine, je le pense, quand il aura fait ses consultations et ses visites diplomatiques, ses discussions, il aura, je pense, l'occasion de les expliquer.
Oui, mais il partait avec un objectif, et ça, vous devez le savoir.
Il part avec un objectif de mobiliser encore plus de force et de donner encore plus de force.
D'essayer de faire travailler les Américains et les Russes en même temps.
Mais bien entendu, dans des échanges, qui soient les échanges de renseignements, dans des objectifs qui peuvent être partagés, dans les moyens qui convergent pour la destruction de ce qui fait aujourd'hui la force économique de Daesh. On sait que c'est pour les États-Unis qui craignent, nous le craignons d'ailleurs autant qu'eux, mais qui ont été très meurtris par leurs erreurs passées, notamment sur les frappes civiles, les États-Unis. C'est vrai qu'à certains moments, ils étaient intervenus alors que nous ne souhaitions pas nous intervenir. Je rappelle ce fait dans les années passées. Et donc, ils sont très très attentifs à cela. Nous voulons les mobiliser sur des objectifs qui soient des objectifs qui permettent de mettre à mal Daesh. Et plus nous frapperons cette organisation tout azimut, mieux ce sera.
Lilian Lemagna.
Bruno Leroux, la coalition large que souhaite le président de la République va être aussi un peu compliquée depuis aujourd'hui. Un avion russe qui a été descendu par l'aviation turque, la Turquie qui est un membre très important de l'OTAN, dont nous faisons partie, ça commence mal quand même, l'alliance entre les Russes et l'OTAN.
Qui est en train de monter en
Oui, nous avons besoin de savoir, bien entendu, les conditions dans lesquelles se sont passées
Là, il y a des versions contradictoires.
Mais bien sûr, les versions sont aujourd'hui contradictoires. Je vois qu'en Turquie, on appelle le chargé d'affaires russe. Je vois que M. Poutine a dit que ça ne pourrait pas être
sans conséquence. C'est un coup de poignard dans le dos, a dit Poutine.
Oui, je vois bien. Et dans le même temps, c'est vrai que personnellement, je m'interroge. Quand il s'agit en temps, de paix, d'un survol d'une frontière ou d'un pays sans autorisation, bon, on peut se dire qu'il doit y avoir, même je ne justifie pas le fait qu'on puisse tirer, mais là on sait que l'on est dans une situation de guerre avec la Syrie et l'engagement de forces à côté. Je me demande et je ne comprends pas comment un tel accident peut arriver alors que nos objectifs devraient converger vers le même point. C'est peut-être aussi que du côté turc et du côté russe, il faut clarifier les engagements et qu'il faut clarifier l'action militaire qui est celle de chacun de ces deux pays.
Alors, je vous propose de réagir justement à une petite phrase de Xavier Bertrand, hein, qui s'exprime hier sur France Info et qui parle de ce problème de la Turquie.
Il faut aussi que tout le monde joue le jeu, que tous nos alliés sortent de l'ambiguïté, qu'on sache exactement où passe leur pétrole, parce que le pétrole, c'est pas virtuel. Et il faut que la Turquie soit clairement à nos côtés pour frapper l'État islamique.
Vous dites... Alors voilà, c'est ce que vous disiez. En fait, est-ce que la Turquie joue un double jeu, profite du pétrole de l'État islamique, leur
achète... Double jeu, jeu compliqué, je le pense. Et c'est pour cela qu'il faut, là encore, amener chacun sur un objectif principal. De la même façon que la Russie, aujourd'hui, dirige une partie de ses frappes, et cela n'a pas, semble-t-il, évolué ces derniers jours. Plus contre l'armée syrienne libre que contre Daesh. On sait que la Turquie a dirigé une partie de ses frappes contre les Turcs, contre les Kurdes, plutôt que contre Daesh à certains moments du conflit. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises, d'après les éléments que l'on a, qui ne sont pas directement l'État turc, mais enfin, qui sont des entreprises qui appartiennent à ce pays, qui ont des liens avec l'État et qui peuvent acheter un certain nombre de matières premières, de pétrole, fournissant en cela de la ressource financière à Daesh. Donc c'est tous ces points qu'il faut clarifier aujourd'hui. Et donc je ne parle pas de double jeu, mais de jeux qui sont aujourd'hui trop compliqués, qu'il faut simplifier. Quand on est confronté à cette vague de terrorisme, il faut que les objectifs de chacun soient clairs.
Rosine Fèvre.
Faut-il demander aux pays sunnites de s'engager un peu plus sans qu'une coalition unique, puisque c'est l'expression, ne soit pris dans le piège entre la bagarre entre chiites et sunnites. Est-ce que, par exemple, s'il y a des forces à terre un jour, est-ce que ce ne serait pas aux forces locales, c'est-à-dire aux sunnites, de descendre dans l'arène ?
À l'évidence, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est réussir, pour vaincre ce monstre qu'est Daesh, à unir beaucoup plus largement que de faire des coalitions qui soient là une coalition sunnite, là une autre coalition. Donc, et je m'aperçois que pour réunir une coalition très large qui vienne en soutien à la Syrie, à l'État de Syrie, M. Bachar el-Assad est aujourd'hui un obstacle pour beaucoup. Pour ce qu'il a fait, très certainement, pour ce qu'il est aussi vis-à-vis des autres pays de la région. Donc c'est encore là, une fois encore, mais c'est un problème que je pense que la France, nous avons identifié depuis très longtemps. Le fait que M. Al-Assad, par la personnalité qui est la sienne, était un obstacle à une coalition régionale qui pourrait permettre d'aller au sol. Bon, moi je pense qu'il faut continuer à discuter avec tous les États de la région, essayer de les rassembler avec toutes les divergences qui peuvent être les leurs, voir avec les Peshmerga là où ils peuvent être au sol et aller au sol et livrer combat au sol avec tout notre appui, là où il peut y avoir des coalitions régionales. Mais c'est vrai que...
Il semble que ce soit une des choses qui sortent de l'entretien entre Barack Obama et François Hollande, puisqu'on annonce qu'ils veulent aider les forces qui luttent contre Daesh sur le terrain.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer se passer d'une action au sol, en complément du travail de renseignement et de frappe qui est fait, et pour autant, je continue à penser, et à avoir là-dessus, n'avoir aucune divergence avec la position du gouvernement, qui est que c'est une coalition régionale qui doit être privilégiée pour l'intervention au sol.
Lilian Alemania.
On a entendu Xavier Bertrand qui parlait du pétrole de Syrie ou d'Irak qui pouvait passer par la Turquie. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, le groupe communiste a évoqué l'idée d'une commission d'enquête parlementaire sur le financement de l'organisation terroriste État islamique. Est-ce que vous y seriez favorable, vous, groupe socialiste ?
Je suis, par nature, dans ce moment, ouvert à tous les travaux parlementaires qui permettent de faire la lumière, qui permettent de comprendre et qui permettent d'avoir des clés pour agir. C'est simple, donc il y aura d'ailleurs demain matin aussi une initiative en commission des affaires étrangères, je crois, du groupe UMP, sur une commission qui soit assez restreinte sur les financements, là encore, mais avec un exposé des motifs difficilement compréhensible, tourné uniquement sur la question des chrétiens d'Orient, problème majeur s'il en est. Moi je fais la proposition, et je fais la proposition à tous les groupes de l'Assemblée, que nous essayons de travailler ensemble à ce que l'on appelle une commission d'enquête, conférence des présidents, c'est-à-dire qu'ils puissent réunir très largement, à l'initiative du président de l'Assemblée, tous les groupes politiques, et d'en définir ensemble les modalités. À l'évidence, la question du financement de Daesh peut être intéressante, mais quels moyens avons-nous réellement, nous, Parlement français, d'aller convoquer les banquiers de Daesh, d'essayer de faire... Je pense que c'est une question qui doit se poser, parce que moi je ne veux pas de commission d'enquête qui ne déboucherait sur rien du tout. Il y a la question de ce qui s'est posé dans notre pays, mais là l'enquête judiciaire ne peut pas être doublée d'une commission d'enquête parlementaire. Et donc moi je suis ouvert, je le dirai demain matin, j'ai prévu d'appeler Christian Jacob et les autres présidents de groupe pour leur dire, prenons peut-être... un ou deux jours supplémentaires plutôt que de voter une commission d'enquête qui, en fin de compte, donnerait un peu de trop bonne conscience. On aurait fait une commission d'enquête sans qu'elle soit véritablement précise sur son objectif. Mais je prendrai contact avec les présidents de groupe pour les inviter à ce que nous puissions réfléchir ensemble à une commission d'enquête Assemblée nationale qui puisse tirer les enseignements de ce qui s'est passé et faire des propositions, tout comme nous l'avions fait au sortir de l'affaire Merah, avec une proposition de commission, avec une commission d'enquête qui avait été dirigée par Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, un député de droite et un député de gauche, et qui avait donné lieu derrière, d'ailleurs, à des prises de décision sur la réorganisation du renseignement dans notre pays, et notamment sur le fait de réaffecter un renseignement à nos territoires, ceux dont nous manquions cruellement au moment de l'affaire Merah.
Rosine Fèvre.
Sur l'Europe, vous parliez des Allemands tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'Europe est un peu à la fenêtre de l'histoire ? Vous dites que les Allemands ont les mêmes objectifs, mais ils n'ont pas d'armée. Ils ont une tradition pacifique depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Europe et d'un pays si
là encore,
fort
on
économiquement
pas beaucoup
que...
Angela Merkel, quand même.
Alors, elle a eu un geste de... formidable avec les réfugiés. Et aujourd'hui, eh bien, la générosité se transforme en méfiance.
Mais là encore, je voudrais être très clair. L'Europe... ça ne peut pas être des règles budgétaires quand tout va bien et des messages de solidarité quand ça va mal. Ça doit être plus que cela. Ça ne peut pas être uniquement ces deux dimensions. Et donc il faut, et c'est pour cela que Bernard Cazeneuve a souhaité dès la fin de semaine dernière, le gouvernement français, mais c'est Bernard Cazeneuve qui le représentait, faire un sommet des ministres de l'Intérieur pour que la question des frontières soit posée. L'Europe a été bâtie pour essayer de résoudre ensemble ce que nous avions du mal à résoudre pays par pays. À l'évidence, la question du terrorisme aujourd'hui n'est pas une question nationale, c'est une question transnationale. Et la capacité de l'Europe à être forte dans cette période triendra à la façon dont elle saura organiser ses frontières, dont elle pourra les garder, dont elle pourra assurer un fichier de ceux qui rentrent, et donc de la capacité...
Pourquoi il n'est pas fait ce PNR, là hein?
Mais parce que ce PNR est bloqué aujourd'hui. Mais nous nous battons
c'est
depuis maintenant.
C'est le fichier qui permet de surveiller les...
Disons que c'est un fichier qui fonctionne aujourd'hui, qui fonctionne aujourd'hui aux États-Unis, qui fonctionne aujourd'hui au Canada, qui fonctionne aujourd'hui en Australie, qui ne fonctionne pas en Europe et qui ne nous permet pas de suivre...
Il n'a pas été voté par les parlementaires européens.
...les voyageurs. Et très franchement, là je le dis à mes amis européens, mais même aux amis de ma propre famille politique... Il ne faut pas voir derrière derrière l'identification de ceux qui peuvent demain voyager pour acte de terrorisme, il ne faut pas voir un fichage généralisé de tous les voyageurs et de tous ceux qui veulent voyager dans le monde. Enfin, il y a des moments où il faut... Moi, je n'ai pas le sentiment, et là encore, je veux dire les choses très clairement. Depuis une semaine que nous sommes confrontés à des votes à l'Assemblée nationale, je pense notamment à l'état d'urgence, à la réponse politique qui est celle du président de la République. J'ai le sentiment d'une réponse cohérente qui ne brade en rien ici d'un côté les libertés, de l'autre côté qui organiserait la sécurité. C'est un tout.
Eh bien, c'est la phrase de fin de cette première partie de Mardi Politique. On retrouve notre invité Bruno Leroux dans quelques minutes.
« Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans la seconde partie de Mardi politique avec notre invité Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Toujours à mes côtés, Lilian Alemania de Libération et Roselyne Fèvre de France 24. Bruno Leroux, 10 jours après les attentats et après un certain nombre d'avancées dans l'enquête, ça a été assez rapide. Est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui la menace en France est redescendue d'un cran ?
Non. Non. Ceux qui devaient être arrêtés l'ont été. Ceux qui sont recherchés, il y a toujours aujourd'hui au moins un des auteurs ou des participants qui est recherché et qui sera, je n'en doute pas, arrêté dans les prochaines heures, les prochains jours. Mais pour le reste, le président de la République l'a dit, c'est une guerre qui nous est livrée. Le Premier ministre a rappelé que la menace était toujours très forte. Nous essayons de nous organiser, bien entendu, avec l'échelon supplémentaire qui a été celui de l'état d'urgence, après toutes les mesures que nous avons prises depuis le mois de janvier dernier, car nous étions dans une période où nous sommes organisés par nos services de renseignement, par ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, par la tension permanente qui règne aujourd'hui sur nos policiers, sur nos douaniers, sur nos gendarmes, sur nos militaires qui sont sur cette opération de sécurité intérieure. Donc non, la menace n'a très certainement pas baissé et c'est à nous de nous organiser pour faire en sorte que nous puissions arrêter ceux qui aujourd'hui veulent commettre sur notre sol. Et de ce point de vue-là, les opérations qui ont été faites ces derniers jours montrent que on réussit aussi de très belles opérations.
Lilian Alemania.
Bruno Leroux, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis la prolongation de l'état d'urgence, donc de 3 mois la semaine dernière. On nous dit que c'est une guerre, que la menace est là, que la menace va durer. Pourquoi alors 3 mois, pas 6 mois, pas 1 an d'état d'urgence? Cet état d'urgence est là pour faire face à la menace. La menace va être longue, donc...
Oui. Mais
donc c'est quoi, c'est un état d'urgence permanent?
Non, mais cela n'a pas état d'urgence permanent serait affiché un défaitisme par rapport aux opérations que nous voulons mener. Et donc en mettant et en disant aux Français que nous voulons pour les 3 prochains mois que cet état d'urgence soit prolongé, c'est pour qu'il permette à nos services de faire toutes les opérations qui sont possibles pour essayer de démanteler les filières qui peuvent exister, les actes qui peuvent être préparés. Mais le président de la République lui-même a dit qu'il conviendrait très certainement de réviser la Constitution pour avoir un fondement civil à l'état de crise que nous connaissons, à l'état d'urgence que nous connaissons, qui soit plus adapté à la situation que la loi de 1955.
Mais comment vous expliquez aux gens, après, enfin, comment vous justifiez le fait qu'on sorte de l'état d'urgence et qu'on revienne à un état civil bon,
mais
classique
parce que, mais parce que quand nous aurons des opérations à répétition réussies contre Daesh, qu'il y aura la mobilisation de tous les pays qui doivent aujourd'hui frapper, que nous aurons démantelé des cellules dont nous pouvons penser aujourd'hui qu'elles existent et que nous irons identifier des réseaux, je pense qu'à un moment donné, nous pourrons nous dire que, non pas la question sera réglée, mais que le niveau d'alerte pourra peut-être à ce moment-là baisser, mais tout cela est bien entendu la conséquence de l'action que nous devons mener contre Daesh en Syrie et en Irak notamment, et puis de ce que nous devons faire sur notre territoire pour
justement
contrôler ce qui pourrait mener des opérations contre nous. Donc ce n'est pas une guerre, c'est une guerre qui risque d'être longue, le président de la République l'a dit, mais elle sera marquée de différents moments qui, je l'espère, à chaque fois nous feront progresser et permettront d'abaisser la menace.
Est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on aurait peut-être dû faire après les attentats de Charlie, avec cet état d'urgence, de faire un petit peu, excusez-moi l'expression, le ménage dans les milieux islamistes radicalisés, qui n'a pas forcément été fait après
D'abord, après...
Est-ce que cette décision elle a été prise là? Elle aurait peut-être pu être prise aussi après Charlie?
L'état d'urgence, non. Nous avons voté après Charlie des mesures qui permettaient à nos services de renseignement d'avoir une base légale qui soit beaucoup plus forte pour mener des opérations.
Oui, mais là on le voit bien, c'est des perquisitions, c'est des arrestations,
oui,
c'est des inculpations.
Elles étaient faites auparavant. Elles sont facilitées aujourd'hui. par l'état d'urgence. Donc elles étaient faites auparavant, et l'état d'urgence, en l'occurrence sur ce qui s'est passé là, n'aurait, je pense, pas changé le drame que nous avons connu. Et donc, ce qu'il est important...
Alors pourquoi maintenant ?
Mais parce qu'aujourd'hui, il convient d'accélérer au moment où nous sommes et de marquer psychologiquement, après cet attentat, encore plus ceux qui voudraient se mettre en situation d'en préparer de nouveau. Et qu'il faut, sur tous les territoires, déployer un certain nombre d'éléments encadrés, de perquisitions, d'assignations à résidence, pour essayer de dissuader tous ceux qui voudraient commettre un nouveau passage à l'acte.
Rosine-Fèvre.
Peut-être pour compléter la question de Valérie, après Charlie, bien sûr, ça a été le premier choc, donc très violent. Et on s'est dit, c'est la liberté de la presse qui est attaquée, ce sont les journalistes. Aujourd'hui, là, ce qui s'est passé le 13 novembre, c'est qu'ils ont tué à l'aveugle. Ils ont tué des jeunes, ils ont tué des gens qui se promenaient à Paris. Est-ce que, dans le fond, même si les politiques savaient qu'il y aurait une attaque terroriste, on s'y attendait tous, est-ce que l'ampleur, tout de même, n'a pas surpris?
Mais l'ampleur
dans le nombre, dans le mode opératoire,
Bien entendu que cela a surpris, parce que je pense que beaucoup de Français s'attendaient à ce qu'il y ait potentiellement de nouveaux attentats, mais pensaient en même temps que, comme pour Charlie, on s'attaquerait à des symboles,
voilà,
à des symboles de la République, à des symboles, et donc à un musée, comme cela a pu être fait ailleurs, symbole de la culture, à un journal, symbole de la liberté de la presse,
exactement,
à une épicerie cachère, symbole d'une communauté dans notre pays. Et donc, l'attaque qui a été faite contre des gens qui s'amusaient, des gens qui sortaient, des gens qui allaient au concert, des gens qui vivaient tout simplement, indépendamment de ce qu'ils sont. On a tiré sans savoir s'il y avait des athées, des musulmans, des juifs, 19 nationalités qui ont été tuées. Et donc, le traumatisme qui était fort sur Charlie, parce qu'on avait touché, en fin de compte, la République, on avait touché. Et là, on a touché la nation française, on a touché le peuple français. Et donc, c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un tel soutien de la part des Français. Une colère sur ce qui s'est passé. Et puis, une forme de colère aussi que relèvent vos questions sur pourquoi est-ce que cela n'a pas été évité, même si, en fin de compte, tous ceux avec qui j'ai discuté ce week-end, tous mes concitoyens, parce qu'ils ont besoin, même quand ils sont en colère, de discuter, ils en arrivaient toujours à la même conclusion. Ce doit être très, très difficile d'éviter celui qui veut sortir de sa voiture, qui rentre dans notre pays, qui sort de sa voiture avec une Kalachnikov, qui tire et qui s'en va. C'est beaucoup plus facile de le retrouver
malgré
derrière.
Malgré tout, quand on voit qu'Abdelhamid Abaoud est venu de Syrie en France sans que personne s'en rende compte, là, c'est pas la personne non identifiée qui sort de nulle part, et c'est un des terroristes les plus recherchés en Europe.
Mais disons-le très clairement, c'est très certainement, nous parlions tout à l'heure d'enquête, moi je ne suis pas sûr qu'il faudra une commission d'enquête pour savoir cela, mais nous devons savoir exactement par quelle modalité, par quel chemin, et je dirais même heure par heure, à partir du moment où il est rentré en Europe, pourquoi nous n'avons pas été prévenus du fait qu'il était en Belgique, qu'il rentrait en France pour... Enfin voilà, c'est des éléments qu'il faut bien entendu éclaircir dans l'enquête qui va être menée.
Lilian Lemania.
On a parlé de la révision constitutionnelle qui a été annoncée par le président de la République au congrès à Versailles, donc qui va concerner on va dire la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui est une loi qui rentrera dans la Constitution. Il y a une autre annonce qui a été faite, c'est la déchéance de nationalité possible pour les citoyens nés français. Quelle est votre position là-dessus, puisque c'est une idée qui vient de l'extrême droite au départ et qui est reprise aujourd'hui par un président et un premier ministre socialiste?
Nous allons en débattre. J'ai dit aux membres de mon groupe ce matin que nous allions procéder à un certain nombre d'auditions pour examiner ces propositions, la réforme constitutionnelle, ce que l'on peut y mettre, et cette question qui a été posée par le président de la République. À l'évidence, pour moi, il y a deux questions. D'abord, est-ce que ça fait partie des mesures antiterroristes? À l'évidence, pour moi, non. Ça ne fait pas partie des mesures antiterroristes. Je ne pense pas que l'adoption de cette mesure puisse éviter qu'il soit commis un acte terroriste. Par contre, je me fais une idée de la citoyenneté, de ce qu'est être français, avoir la nationalité française, qui est aux antipodes de la capacité à pouvoir prendre une arme pour la tourner contre les citoyens de son pays et pour des raisons qui sont des raisons liées à la défense d'un autre État, d'un État religieux qui est au-dessus de l'État républicain. C'est pour ça qu'au moment où je vous parle, dans ce cas précis, moi cela ne me pose aucun problème d'imaginer cela. Et pour autant, je veux bien entendu mettre en place ce groupe, écouter et participer, parce que je sais la question de la nationalité, la sensibilité qu'elle a dans notre pays. Je sais, bien entendu, l'histoire qui est celle de la nationalité dans notre pays. Et je vois bien ce à quoi on peut toucher en matière d'équilibre. Est-il possible de le restreindre tel que je le viens de le faire en disant que les quelques personnes commettant des actes les plus horribles, les plus condamnables qui soient, dire que la question ne devrait même pas se poser pour eux, j'ai envie de le dire comme ça. Et pourtant, on sait très bien qu'à côté de ces questions qui peuvent toucher 2, 3, 4 individus, il y a des problèmes de principe dans notre République.
Et surtout, vous allez faire une séparation entre les nés français qui ont une autre nationalité et les nés français qui n'ont pas d'autre nationalité.
Oui, donc c'est pour cela que je pense que c'est un sujet, moi, je le dis au moment s'il fallait prendre cette décision demain, je pense qu'aujourd'hui, mon vote, j'en suis même sûr, au moment où je vous parle, serait favorable. Et pour autant, je veux profiter des quelques semaines que nous avons sur ce terrain pour, avec mon groupe, faire en sorte de le nourrir d'une réflexion sur ce que ça peut représenter dans notre République.
Rosine-Ferre.
François Hollande a dit la semaine dernière, il n'y a plus de clivage partisan qui tienne, il n'y a que des hommes et des femmes de devoir. Alors c'est vrai qu'il a repris beaucoup de demandes, hein, de la droite à la fois, et du Front National aussi. Il a fait la semaine dernière, et pas grand monde ne l'a relevé, un lien entre terroristes et réfugiés, en disant que ce lien existait. Donc jamais, évidemment, si François Hollande avait dit de telles choses il y a 15 jours, 3 semaines, ça aurait été une pluie d'insultes, une pluie de critiques sur lui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'avec cet état d'urgence, avec ce qui s'est passé, toutes les idéologies à la fois de gauche, de droite, tout se mélange dans le fond pour une sorte de... Ou quand même, le combat politique est encore là.
Non, d'abord...
Est-ce qu'en fait, François Hollande avait le choix de prendre ce qu'on a appelé un virage sécuritaire, ou est-ce qu'il fallait absolument, ce qu'il y avait une attente des Français?
Moi, je ne vois d'abord, aucun virage sécuritaire. Et la semaine dernière, quand nous étions à l'Assemblée nationale, dans le premier débat que nous ayons eu de façon apaisée sur l'état d'urgence, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de propositions qui étaient celles de la droite, qui n'ont pas été reprises par le gouvernement, qui n'ont pas été validées par le président de la République, parce qu'elles n'étaient pas...
Parce qu'elles n'étaient pas efficaces.
Et moi, je n'accepte pas de laisser à penser que dans les mesures que nous avons prises pour l'instant, il y a les mesures de gauche et les mesures de droite.
Il y a des mesures qui étaient proposées par la droite, en tout cas.
Bah, bien entendu.
Mais c'était ma question.
Des mesures qui étaient proposées par la droite et vous
et
les
refusées
avez...
par la gauche.
Mais non,
présent.
Pas refusées par la gauche, pas du tout, et pas proposées par la droite auparavant non plus. Quand, excusez-moi de vous reprendre là-dessus, vous ne trouverez aucun lien, absolument aucun lien fait par le président de la République entre la question des réfugiés et la question du terrorisme. Ce que le président de la République...
Il a évoqué...
Qu'il y ait, à un moment donné...
Ce lien existe.
Mais je vais vous dire les choses. J'en ai assez discuté avec lui pour pouvoir vous dire, des choses très précises sur cette question.
Je l'ai écouté,
oui,
je sais
qu'il
a dit
ça. Pour pouvoir vous dire des choses très précises sur ces questions. Qu'il y ait aujourd'hui, par manque d'organisation de l'Europe, un certain nombre de personnes qui se souhaitent infiltrées, qui ne sont pas des réfugiés, qui se sont infiltrés, qui ont profité des réfugiés pour rentrer en Europe, c'est un problème qui nous est posé parce qu'on a pu se servir de cette filière. Et c'est pour cela d'ailleurs que Bernard Cazeneuve a souhaité être très ferme sur la demande de la France de contrôle aux frontières, demande répétée. Pour le reste, les réfugiés en eux-mêmes, attention à de ne pas jeter l'opprobre aujourd'hui sur ceux qui sont en situation de souffrance, de désintégration familiale, d'avoir tout quitté. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut établir absolument aucun lien entre la situation des réfugiés et le terrorisme dans notre pays ou en Europe. Et notamment parce que, vous savez, qu'il y a des balancements qui peuvent être très forts. Hein. On est à l'entrée de l'Europe, on est avec des
réfugiés. Mais il a tout de même dit que ce lien existait, il l'a dit.
Non.
Il l'a dit. Ben si. Mais il a dit. Certains disent qu'il y a un lien entre terroristes et réfugiés. Ce lien existe. Donc, il y aura. Nous avons un devoir d'humanité, mais aussi un devoir de protection. Et il y aura des vérifications nécessaires.
Oui, mais c'est les.
Ou alors, j'ai mal compris.
Mais pour en avoir discuté, donc je vous dis.
Bon, d'accord.
Mais je vous dis ce dont il s'agit. Ce n'est pas les réfugiés en aucun cas mais qui sont désignés ici. C'est ceux qui se servent aujourd'hui de ces mouvements de réfugiés pour y prendre une place et s'infiltrer, qui ne sont pas des réfugiés, qui sont des combattants.
Mais ça complique le problème de l'accueil des réfugiés.
Mais ça complique le problème, ça simplifie en même temps, ça devrait simplifier la question dont on traite aujourd'hui, l'arrivée de ces migrants dans notre pays et les contrôles qui doivent se faire lors de leur entrée en Europe.
Est-ce que Schengen n'est pas vraiment définitivement menacé ?
Je ne le souhaite pas d'abord parce que je ne pense pas que les pays et plus de capacité aujourd'hui à faire en sorte de mettre en œuvre les protections qui sont les protections nécessaires. Ensuite, parce que ça serait un terrible coup porté à l'Europe. Un terrible coup...
Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà un terrible coup porté à l'Europe, justement, là, on a vu toutes les faillites successives
Je pense pas. En tout cas, moi, je ne parle jamais comme ça. Je pense que l'Europe a aujourd'hui beaucoup de responsabilités à prendre, qu'elle ne les a pas toujours pris au moment où elle devait les prendre, mais je ne penserai jamais que sur aucune des grandes questions qui se posent à nos peuples, le repli nationaliste soit une solution.
Est-ce qu'un service antiterroriste européen serait une idée à mettre sur la table ?
En tout cas, partager des informations pour bâtir des services de renseignement, un service de renseignement encore plus performant au niveau européen, avoir une capacité à bâtir militairement des réponses communes et à avoir des participations qui soient à la hauteur de chacun des pays là-dedans.
Ce serait l'équivalent d'une police fédérale comme aux États-Unis. Il y a le FBI au niveau
Oui, alors c'est pas totalement antiterroriste, c'est pas. Mais moi, toutes les idées qui permettent d'être plus efficaces au niveau européen, même prises dans un moment de crise, elles sont pour moi importantes et elles marquent d'une volonté. Nous avons besoin au niveau européen de montrer à nos concitoyens que par rapport aux problèmes qui se posent, nous sommes la réponse. L'Europe peut être totalité ou partie de la réponse et non pas disqualifiée. Et donc, tous les projets communs qui, dans le moment où l'Europe est confrontée au terrorisme, permettront d'apporter une réponse, moi, je les verrai d'un œil favorable.
Et en France, il y a aussi un problème de l'émergence de djihadistes en France, français. Emmanuel Macron a parlé d'un terreau sur lequel le djihadisme a prospéré. Et je vous propose d'écouter un petit son de Rachida Dati qui s'exprimait sur BFM qui parle de ça.
Ces terroristes ne font pas des attentats aveugles. Ce sont des attentats ciblés, ils ciblent tout le monde. Ils veulent déstabiliser, terroriser, détruire notre société et nos valeurs. Et c'est pas, j'entends certains en disant, ils veulent nous imposer un mode de vie. Mais quel mode de vie ? Nous avons engendré en notre sein ces monstres. On a engendré des monstres et on a laissé faire. Ça, c'est une réalité.
Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Rachida Dati ? Est-ce qu'on a trop laissé faire ?
À l'évidence, la question de la vie commune sur notre territoire et des règles de vie qui ne peuvent être que des règles républicaines sont posées dans un certain nombre d'endroits aujourd'hui. Je ne fais pas la liaison, moi je n'ai pas d'éléments qui me permettent de faire la liaison avec le terrorisme. Par contre, je fais la liaison avec la capacité à vivre ensemble et à se regarder sans voir dans le regard qu'on porte sur l'autre d'abord la religion et la question religieuse. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est au cœur. Moi, je le redis aujourd'hui. C'est pour ça que nous organisons la semaine prochaine, avec Jean Glavany, comme nous le faisons depuis 6 années maintenant, des rendez-vous de la laïcité que nous avons souhaité maintenir dans cette période. C'est un rendez-vous qui a vocation à être confronté à la réalité. Et là, la réalité, par exemple, nous allons discuter la semaine dernière de l'égalité homme-femme et de la place des femmes aujourd'hui sur tous nos territoires, parce que par exemple, c'est un recul manifeste dans beaucoup de quartiers. Donc moi, je pense que le problème majeur aujourd'hui, c'est de ne nous accommoder avec aucun arrangement avec la loi de la République, où que ce soit. Et il n'y a aucune partie du territoire où une autre loi puisse prendre le pas sur la loi de la République.
Bruno Leroux, les régionales, on n'en a pas encore parlé. Comment faire campagne maintenant, après ces attentats ? Le PS est en retrait, les autres ont recommencé à faire campagne ?
Nous voulons faire campagne avec dignité. Donc d'abord, pas avant l'hommage national qui sera rendu. Nous l'avions dit alors que nous ne savions pas que l'hommage national serait rendu le vendredi de la seconde semaine. Mais ça ne nous est même pas venu à l'idée de faire des réunions avant même, des réunions publiques.
Les têtes de liste ont déjà repris leur campagne. Hein, mais Carole Delga a fait une réunion publique hier soir.
Le parti, nous leur avons dit de prendre de grandes précautions.
C'est plutôt national que vous ne faites pas campagne, au niveau local vous faites
nationalement
campagne.
Nous ne faisons pas campagne, en Île-de-France nous ne faisons pas campagne non plus, là où ces événements se sont passés, ce drame s'est passé, et donc nous reprendrons la campagne le week-end prochain en parlant exclusivement de nos propositions pour les régions.
Meeting, pas meeting ?
C'est pas encore, c'est en train d'être... Il y avait une réunion cet après-midi, et d'ailleurs, pour faire partager cela, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, le Premier ministre, ont réuni cet après-midi la quasi-totalité de nos têtes de liste pour leur dire que dans cette fin de campagne, il fallait, devant les Français, de l'exemplarité. Nos propositions, ne pas banaliser, appeler à voter, appeler nos concitoyens à venir voter pour montrer que la force de la démocratie,
c'est, ça, là, le
c'est d'abord
d'ordre,
le vote.
C'est la mobilité.
Ah ben, nous, c'est en tout cas ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est dire aux Français, intéressez-vous à cette élection, mais surtout, sortez, votez. Plus vous voterez, plus ce sera un signe qui sera donné à tous ceux qui ont voulu aussi nous atteindre.
Rosine Fèvre.
L'image du président de la République s'est améliorée dans l'opinion française. Il s'est posé en protecteur des Français. Il a pris des mesures qui ont été jugées par les Français bonne. Est-ce que vous pensez que ça va aider la gauche au régional?
Pour l'instant, c'est le FN qui semble
Des événements. Dans le moment, je me félicite que les Français aient le même sentiment que celui que j'ai depuis que je vois le président de la République la prendre ses décisions. Moi, j'ai ce sentiment depuis le début du quinquennat. Mais quand les Français se disent que le président de la République est à la hauteur du moment qu'ils vivent, du moment que vit notre pays, je m'en félicite parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent tout simplement. Et donc ensuite, nous verrons bien de quoi sera fait demain.
Moi, vous en espérez pas un gain politique ?
Mais je ne sais pas. Les Français en espèrent très certainement quelque chose de continu. Et donc moi, j'espère quelque chose de continu. Et je ne veux être que dans l'état d'esprit de ne pas les décevoir demain. C'est d'ailleurs l'état d'esprit du président de la République.
Très rapidement, Bruno Leroux, vous étiez où le 13 novembre quand vous avez appris les attentats ?
Pour une fois, je n'étais pas sur ma circonscription au Stade de France. Je suis député de la circonscription du Stade de France et ce soir-là, j'étais chez moi.
Et qui avez-vous appelé en premier ?
Ma fille.
Et en politique ? Chez les politiques ?
Le Premier ministre.
Lilian.
Quel est le projet de loi que la gauche doit faire passer en 2016 pour réussir le quinquennat ?
Il n'y a pas, je ne peux pas, là c'est surtout dans la période actuelle, il y a une partie trop de jeu à cette question-là. Continuer à faire en sorte en 2016 de montrer le chemin du redressement de ce pays. Et le redressement n'est pas simplement un redressement en matière économique et sociale, il doit être aussi un redressement en matière de valeurs, de capacité à vivre ensemble. À l'évidence, dans les projets que l'on ne connaît pas aujourd'hui, il y en a très certainement sur la République, sur la façon dont vit la République, dont nous vivons ensemble, qui peuvent être importants.
Et bien voilà, Bruno Leroux, nous vous remercions d'avoir été notre invité ce soir. Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci à Rosine Fèvre, merci à Lilian Alemania de m'avoir accompagné ce soir, à Mathias Golchani et Audrey Yatoni qui préparent cette émission. À la semaine prochaine.